Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent 7 épi à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 31 mars 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Israël poursuit ses crimes brutaux à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran célèbre la 45e anniversaire de l'établissement de la République islamique. Plus de 400 Palestiniens tués par Israël autour de l'hôpital Al-Shifa. Et puis Journée de la Terre, manifestation de masse à travers l'Europe. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministère iranien des Affaires étrangères a renouvelé dans un communiqué son allégeance à la protection des intérêts nationaux de l'Iran sur la scène internationale alors que le pays célèbre le 45e anniversaire de l'établissement de la République islamique. Le ministère des Affaires étrangères a publié le dimanche 31 mars un communiqué en l'honneur de la journée de la République islamique qui marque la tenue d'un référendum historique en 1979 au cours duquel les Iraniens ont voté massivement en faveur de la destitution du régime Pahlavi soutenu par les États-Unis quelques semaines après son effondrement. Compte tenu des exigences du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, et de l'approche de la politique étrangère du 13e gouvernement, nous nous engageons envers le peuple clairvoyant de l'Iran à travailler dur pour préserver les intérêts nationaux sur la scène internationale et développer les relations avec divers pays du monde, indique le communiqué. La diplomatie iranienne a salué le référendum de deux jours des 30 et 31 mars 1979 comme une épopée unique dans l'histoire de l'Iran et a décrit la République islamique comme un modèle de démocratie fondée sur la religion. Le texte a également salué le courage et les dévouements du peuple iranien dans sa lutte de plusieurs années contre le tristement célèbre régime Pahlavi. Plus de 98,2% des Iraniens éligibles ont voté oui pour l'établissement d'une république islamique dans tout le pays lors du référendum historique tenu en 1979. Le vote qui a eu lieu moins de deux mois après la victoire de la révolution islamique est considéré comme un tournant dans l'histoire contemporaine de l'Iran. La République islamique a été établie en Iran conformément au slogan populaire de la Révolution islamique de 1979 qui appelait à l'indépendance, la liberté et la République islamique pour le pays. Depuis lors, la nation célèbre chaque année le 12 Farvardin du calendrier iranien, soit le 31 mars, comme journée de la République islamique. La révolution islamique dirigée par le défunt imam Khomeini a culminé avec le renversement de Mohammad Reza Pahlavi et a mis fin à 2500 ans de régime monarchique en Iran. L'actualité régionale avec la Palestine dans la bande de Gaza, plus de 400 Palestiniens tués lors du siège de l'hôpital Al-Shifa par l'armée israélienne. Les autorités locales affirment que plus de 400 Palestiniens ont perdu la vie lors du raid israélien contre l'hôpital Al-Shifa de Gaza, où le siège est entré dans son 13e jour. Le bureau des médias de Gaza a annoncé dans un communiqué que les forces israéliennes avaient perpétré divers crimes lors de l'attaque en cours contre l'hôpital Al-Shifa, le plus grand établissement médical du territoire qui abrite des milliers de patients et de personnes déplacées. Les troupes israéliennes ont également détruit et incendié 1050 maisons. Le communiqué ajoute que parmi les victimes figurent des patients, des déplacés de guerre et du personnel médical, notant que des centaines d'autres ont été arrêtés et soumis à la torture. Le bureau des médias de Gaza a ensuite fustigé le silence de la communauté internationale sur de telles atrocités, condamnant le gouvernement américain et la complicité de certains pays du monde avec le régime israélien dans la campagne militaire sanglante contre l'enclave côtière assiégée. Le personnel médical d'autres hôpitaux dans la bande de Gaza, déchiré par la guerre, est également confronté aux brutalités israéliennes, alors que la guerre fait toujours rage. La résistance irakienne attaque une cible israélienne vitale à Galilée. La résistance islamique en Irak a déclaré avoir frappé une cible vitale à Galilée en Palestine occupée dimanche matin. Dans la matinée du dimanche 31 mars, la résistance islamique en Irak a confirmé que ses combattants avaient frappé avec des drones une cible vitale à Eliabun, au nord de la Galilée, en Palestine occupée, réitérant son soutien à Gaza face à l'ennemi israélien. La résistance irakienne a déclaré dans un communiqué que cette attaque s'inscrivait dans le cadre d'une série d'opérations en réponse au massacre des civils palestiniens, notamment des enfants, des femmes et des personnes âgées, par les forces d'occupation israéliennes. Enfin, journée de la Terre, manifestation partout en Europe, en solidarité avec la Palestine. Comme à l'accoutumée depuis le début de la guerre israélienne contre la population civile, dans la bande de Gaza, des manifestations de masse se sont déroulées ce samedi 30 mars dans plusieurs pays européens, coïncidant cette semaine avec la journée de la Terre. Les manifestations ont connu un élan sans précédent et une vaste portée à travers l'Europe, s'étendant à de nombreuses villes dont Londres, Paris, Amsterdam, Copenhague, Aarhus, Oslo. Dans le contexte du génocide en cours à Gaza depuis près de 6 mois, cette journée du 30 mars 2024 prend une importance particulière. Le 30 mars est chaque année une journée particulière en Palestine et pour tous les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés de la Palestine, dans les camps de réfugiés des pays arabes ou dans la diaspora dans le monde entier, c'est la journée de la Terre commémorée depuis 1976. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous, merci. Israël poursuit ses crimes brutaux à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Un responsable du gouvernement de la bande de Gaza a souligné que les forces israéliennes continuent d'attaquer brutalement le complexe médical d'Al-Shifa et les bâtiments environnants, sans manquer de préciser que les sionistes faisaient exploser les maisons autour de cet hôpital et que les corps de centaines de martyrs étaient sous les décombres. Suite au siège complet et à l'agression barbare des forces sionistes contre l'hôpital Al-Shifa à l'ouest de la ville de Gaza et ses environs, Mahmoud Bassal, le porte-parole de la défense civile à Gaza, a annoncé ce vendredi 29 mars que les forces du régime d'occupation font exploser les maisons autour de ce complexe médical. Ce responsable du gouvernement de Gaza a déclaré dans un communiqué que les corps de centaines de martyrs gisent au sol autour de l'hôpital Al-Shifa que nous ne pouvons atteindre. Beaucoup de ces corps se trouvent sous les décombres et nous avons besoin de toute urgence d'une excavatrice pour les extraire des décombres, a-t-il ajouté. Il a souligné que les occupants ciblent sans cesse l'hôpital Al-Shifa et a déclaré qu'il y avait de nombreuses demandes d'aide dans cet hôpital. Les occupants visent également les équipes de protection civile et le personnel médical des hôpitaux. Mahmoud Bassal a précisé que les forces israéliennes prennent pour cible délibérément les équipements et les véhicules de la protection civile et que nous manquons cruellement d'équipements logistiques et que nous travaillons avec le minimum d'équipements possible. Depuis des années, le régime occupant empêche l'entrée des équipements spécialisés dont nous avons besoin pour mener à bien nos activités, a-t-il indiqué. Il a condamné le traitement brutal infligé par l'occupation aux équipes de défense civile de Gaza et a souligné que nous sommes une organisation civile, mais que l'occupation nous traite comme des terroristes. Le régime occupant vise à intensifier l'agression et le chaos à Gaza. Voilà pourquoi le largage aérien de l'aide humanitaire n'est pas bénéfique et les camions d'aide qui sont déjà entrés à Gaza ne répondent pas aux besoins de la population. L'hôpital Al-Shifa de Gaza est assiégé et attaqué brutalement par l'armée d'occupation depuis 2 semaines et des centaines de membres du personnel médical, de patients et de réfugiés à l'intérieur de l'hôpital ont été tués en martyrs ou blessés. Salama Marouf, chef du bureau des médias d'État dans la bande de Gaza, a annoncé que des centaines de civils étaient harcelés par les forces d'occupation à l'intérieur du complexe médical d'Al-Shifa. Les sionistes ont commencé à massacrer des civils dans cet hôpital il y a 2 semaines. En plus, ils ciblent sans répit toute la zone autour de ce complexe médical. Après le crime horrible et brutal commis par les forces d'occupation qui ont violé et tué des femmes, y compris des femmes enceintes, à l'hôpital d'Al-Shifa, l'Observatoire euroméditerranéen des droits de l'homme a rapporté, citant des documents et des preuves fiables, que les soldats de l'armée israélienne avaient exécuté 13 enfants à l'hôpital Al-Shifa et dans ses environs par des tirs directs, et ces violations se poursuivent. Après avoir discuté avec des témoins oculaires des crimes israéliens commis dans le complexe médical d'Al-Shifa et ses environs, l'équipe de terrain de Human Rights Watch a découvert que les soldats sionistes avaient intentionnellement commis le crime de tuer et d'exécuter des enfants palestiniens âgés de 4 à 16 ans. Ces enfants sans défense ont été tués alors qu'ils étaient encerclés par l'armée israélienne ou qu'ils tentaient de s'enfuir avec leur famille.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, notre sujet n'est pas nouveau. Il s'agit bien sûr de crimes horribles commis par le régime israélien contre les Palestiniens, mais également contre le sud du Liban. Le Hezbollah attaque bien sûr les colonies israéliennes en réaction aux frappes d'Israël dans le sud du Liban. Alors, des frappes qui avaient tué 9 ambulanciers, alors que les combattants du Hezbollah prennent pour cible des troupes israéliennes et non pas des civils. Alors, depuis le 7 octobre, début des hostilités dans la bande de Gaza, plus de 32 500 Palestiniens ont trouvé la mort dans la bande de Gaza. Mais également, Israël mène des attaques contre le sud du Liban de manière intermittente. Alors, nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le Hezbollah cible les colonies israéliennes en réponse aux frappes d'Israël contre le sud du Liban. Les combattants du mouvement de résistance libanais Hezbollah ont mené de multiples frappes contre des colonies de peuplement et des positions israéliennes dans le secteur nord des territoires occupés par Israël en 1948. Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir ciblé les colonies de Eshlemi et Goren jeudi en réponse aux attaques contre des civils et en particulier aux frappes israéliennes sur les villes de Nakura et Tair Harfa qui ont tué au moins 9 ambulanciers affiliés au Hezbollah et au mouvement Hamal. Plus tard, jeudi, les combattants de la résistance libanaise ont frappé un centre de commandement nouvellement créé dans le Moshav de Liman, situé dans la région de Galilée occidentale. De plus, le Hezbollah a diffusé une séquence vidéo montrant ses combattants ciblant un rassemblement de troupes israéliennes à Hor Sharamim, près de la frontière sud du Liban, avec les territoires occupés de la Palestine. La résistance libanaise a également tiré une salve de roquettes sur la ville de Kiryat Shmona. Aucun rapport n'a été filtré sur l'étendue des dégâts. Le régime israélien attaque le sud du Liban de manière intermittente depuis le 7 octobre, date à laquelle il a lancé une campagne dévastatrice de mort et de destruction à Gaza, tuant au moins 32 552 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. En représailles, le Hezbollah lance des attaques à la roquette quasi quotidiennes contre les positions israéliennes. Au moins 322 personnes ont été tuées à la frontière libanaise, dont 56 civils. Israël a confirmé qu'au moins 10 de ses soldats et 7 colons ont été tués dans la région. Les combats du Hezbollah ont forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de la partie nord des territoires occupés. Le mouvement a déjà mené 2 guerres contre Israël en 2000 et 2006, l'obligeant à battre en retraite.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Bonjour M. Rami.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à Bernard Cornu, analyste politique. Et bonjour M. Cornu.
Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, j'ai mis mon costume, ma veste de polytechnicien pour montrer le sérieux de mon engagement contre la politique française et la politique des États-Unis face à l'injustice qui règne en Palestine depuis des décennies.
Bernard Cornu, votre sérieux n'est caché pour personne. Vous participez à toutes les manifestations et vous êtes un vrai combattant contre les crimes commis par Israël. Donc dans la bande de Gaza, il est caché bien sûr pour personne. Ma première question va s'adresser à vous justement. À présent, c'est le tour du sud du Liban. Donc le Hezbollah libanais essaye de réagir et frappe des positions des troupes israéliennes alors que les Israéliens avaient attaqué donc, le sud du Liban en tuant 9 ambulancier, un vrai crime de guerre, n'est-ce pas, M. Cornu ?
Tout à fait, c'est un crime de guerre contre des civils, contre des personnels du personnel de santé qui exerce au Liban du Sud. On le voit par les photos de cette ambulance fracassée. Mais le Hezbollah exerce, comme l'a dit d'ailleurs son chef, une certaine retenue parce qu'il a l'expérience malheureuse de 2006 où en quelques semaines, l'État israélien a détruit de très nombreuses infrastructures, des ponts, des tas d'ouvrages, d'infrastructures au Liban. Donc, et le chef du Hezbollah, Saïd Nasrallah, avait lui-même dit qu'il ne s'attendait pas à une riposte aussi violente de la part des Israéliens. Et ceci, j'ai vécu cette situation d'ailleurs quand j'étais à Ankara, le jour de la fête nationale française. Et j'étais même alors scandalisé que l'ambassade de France ait invité l'ambassadeur israélien en Turquie ce jour-là.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Ahmad Rami qui est avec nous depuis la Suède. M. Rami, quelle est votre réaction ? Donc, à la réaction du Hezbollah libanais contre les frappes d'Israël au sud du Liban, je vous prie.
Aujourd'hui, en réalité, le Hezbollah est l'une des organisations de la résistance les plus efficaces et les plus organisées et qui ne se laisse pas faire et qui, en réalité, peut porter des coups à l'arrogance de l'antisioniste. Et en réalité, le Hezbollah ne fait qu'exercer son droit et son devoir de réagir contre l'injustice qui est perpétrés par l'occupant sioniste en Palestine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura de paix dans l'avenir, dans le monde, qu'une paix basée sur la justice. Il n'y aura jamais de paix dans le monde entier si un pays ou un principe est agressé, un principe de justice. Donc, le Hezbollah représente en réalité, ses actions représentent la justice et le droit international. Et il n'est pas seul dans ce domaine, il y a aussi la République islamique d'Iran, le Yémen, la Syrie et l'Irak. Je crois que ce front de résistance donne une leçon, donne aussi une voie à suivre pour toute l'humanité, pour toutes les organisations internationales, car en réalité, il n'y aura pas, comme j'ai dit, de justice valable, de justice permanente, que si cette justice, que c'est que c'est les solutions et les actions et l'organisation dans le monde est fondée sur la justice.
Merci, M. Ahmad Rami. Revenons, je vous prie, sur le costume de M. Bernard Cornu. Il s'agit donc d'un geste symbolique. Il porte le costume de Polytechnique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, M. Bernard Cornu? Comment nous faire partager votre colère à l'égard de la politique de la France vis-à-vis des crimes commis par Israël dans la bande de Gaza, je vous prie?
Disons, la France, il est connu que depuis très longtemps, elle a participé à l'armement israélien. Ce n'est pas le plus grand fournisseur d'armes, puisque à peu près deux tiers des armes sont fournies par les Américains, spécialement en cette période, et presque un petit tiers ou un quart par la République fédérale allemande, qui est toujours pressurisée par l'État israélien à cause du comportement dans la période nazie face aux Juifs, donc ce qu'on appelle la Shoah, le massacre des Juifs d'Europe. Et la France quand même participe. On a révélé récemment que la France a vendu des équipements pour les mitrailleuses israéliennes, compatibles avec les mitrailleuses israéliennes qui servent effectivement à l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. Ceci est scandaleux et ceci met la France dans une position de complicité dans ce génocide qui est dénoncé par les Nations Unies, récemment par Madame Francesca Albanese, responsable du Haut Commissariat pour les réfugiés au Moyen-Orient pour sur les droits de l'homme, et aussi récemment par la Cour de justice internationale qui, dès le 26 janvier, a dit qu'il y avait un risque de génocide, l'a répété il y a deux jours aussi dans une nouvelle ordonnance et qui a demandé, sans avoir de réponse réelle, qui a demandé à l'État israélien de prendre toutes les mesures conservatoires pour éviter ce génocide, c'est-à-dire arrêter d'assassiner les civils, arrêter de mettre des obstructions très diverses à l'ensemble des fournitures d'aide humanitaire, d'alimentation, de carburant et tout ça. Dans un document très précis, elle a précisé cela et pour l'instant, il n'y a pas de réaction ferme, agissante de la part des Nations Unies ou des pays européens qui sont impliqués par cette guerre. Sauf que, effectivement, dans quelques pays, face à cette menace de complicité, des organisations locales ont saisi la justice aux Pays-Bas, en Allemagne et au Canada. Et au Canada, c'était au Parlement, pour faire cesser ces livraisons d'armes. J'attends donc que la France se mette aussi à exercer de telles sanctions face à l'agression israélienne face à ce génocide en cours sous les yeux du monde entier.
Absolument. Ahmad Rami, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de M. Bernard Cornu quand il a dit fournir des armes à Israël, ce qui vaut donc d'être complice au génocide qui se déroule dans la bande de Gaza?
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il faut savoir que ceux qui soutiennent Israël participent en réalité au génocide d'une façon indirecte. Et condamner cette cet appui à Israël, ce soutien à Israël, et fait partie aussi de prendre des positions justes envers la question palestinienne. Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, tout est tout à fait clair, il s'agit d'une occupation. Il s'agit des étrangers qui ne sont pas de la Palestine, qui sont venus et qui occupent la Palestine et qui veulent exterminer le peuple palestinien et occuper d'ailleurs toute la région, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et pas seulement toute la région, mais en réalité, politiquement, occuper le monde entier. Dans tous les pays, le lobby israélien sioniste a le pouvoir, que ce soit en France, vous n'avez que l'exemple de... du CRIF aux États-Unis, vous avez l'exemple de AIPAC. Donc, il n'y a pas de. En Israël, il n'y a pas un lobby américain ou un lobby français. Mais en France, aux États-Unis, il y a un lobby israélien. Donc, vous voyez le déséquilibre de la situation. Israël occupe les États-Unis politiquement, occupe la France politiquement, et. La résistance du peuple français doit en réalité se réveiller et pour mettre fin à cette occupation politique de la France et des États-Unis, qu'on ne vous en met pas seulement comme exemple, parce que cette occupation, c'est valable aussi au Maroc, en Égypte, l'Allemagne est toujours occupée, hein, l'Allemagne fédérale, c'est un territoire occupé aussi. Hein. Politiquement et même militairement, l'armée sioniste américaine est toujours là. Et donc cette occupation sioniste est aussi s'exerce à l'échelon mondial.
Bernard Cornu, est-ce que vous allez jusque là, occupation des pays que M. Ahmad Rami a cités?
C'est une formulation symbolique qui évoque le rapport de force médiatique dans le monde. L'influence des milieux sionistes dans les médias pour contrôler l'opinion, pour diffuser l'opinion et par l'opinion publique imposer aux dirigeants de nos pays une certaine politique de soutien, en tout cas de non-obstruction à toutes les exactions de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, telles qu'elles sont le voient. En Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est.
Oui, mais ce qui est encore plus grave, Bernard Cornu, c'est la politique de deux poids, deux mesures que mènent les pays que M. Ahmad Rami a cités, tels que la France, les États-Unis surtout, l'Allemagne, etc. D'un côté, donc, ils fournissent des armes aux Israéliens pour tuer des innocents palestiniens, et de l'autre, ils défendent les droits de l'homme, soi-disant, donc, on encourage un cessez-le-feu immédiat et permanent. Monsieur Ahmad Rami, comment vous expliquez-vous, je vous prie, cette politique, et si ça s'explique bien sûr, cette politique de deux poids deux mesures que mènent ces pays-là?
Oui, parce que ces pays-là sont politiquement occupés par l'antétisioniste, donc ils suivent aussi la tactique de l'antétisioniste. L'antétisioniste n'appelle pas cette occupation de la Palestine comme une occupation, mais pour eux, c'est la résistance qui doit être écrasée, qui doit être exterminée, et non pas la justice, c'est-à-dire l'indépendance de la Palestine et la libération de la Palestine. Donc ces pays-là, ils suivent la tactique, l'hypocrisie de l'antisioniste. Ils ne disent pas exactement ce qu'ils pensent, ils disent seulement ce qui est valable et ce qui est, disons, valable pour la propagande sioniste. Donc ce n'est pas une position de la France ou bien des États-Unis ou de l'Allemagne, c'est seulement une expression de l'hypocrisie de la domination sioniste mondiale.
Monsieur Bernard Cornu, je vous prie.
Oui, je voudrais rappeler une phrase du président Chirac qui a été très respectée dans le monde arabe parce qu'il a eu des positions courageuses, notamment pour s'opposer à la guerre en Irak, illégale, de la part des États-Unis et de l'Angleterre, et qui s'est aussi beaucoup activé pour promouvoir la paix en Palestine, la création d'un État. Il avait beaucoup de contacts, il était allé très souvent en Palestine, de façon officielle ou de façon même privée. Et je voudrais rappeler donc sa phrase à l'Assemblée française le 16 janvier 91, qui empêchera-t-on de penser qu'il y a de par le monde deux poids et deux mesures? Et cette phrase aussi plus importante, encore plus importante, le règlement de la crise du Golfe, donc c'était en 91 par une résolution de, sous chapitre 7 de l'ONU, doit permettre de créer un précédent opposable à toutes les atteintes portées aux libertés des peuples et des hommes, et c'est là la justification essentielle et primordiale de notre intervention concertée, sous-entendu, dans cette région. C'est-à-dire que la guerre du Golfe de 91, qui a été voulue par les Américains, mais acceptée par les autres pays, y compris l'URSS à l'époque, enfin la Russie à l'époque, a été pour Chirac un précédent. C'est-à-dire il a souligné qu'il fallait utiliser ce processus des résolutions sous chapitre 7, qui sont les seuls processus contraignants de tout le droit international, parce que l'autorité du Conseil de sécurité peut être utilisée pour imposer par la force les mesures décidées, et c'est dans le seul cas, c'est sous chapitre 7. Et donc, pour régler tous les autres problèmes de violation des droits des peuples et des hommes, et c'est-à-dire le conflit, le vieux conflit en Palestine, dans la Palestine historique, entre l'État israélien qui s'est créé tout seul suite à une résolution de l'Assemblée générale en 1947, et l'État palestinien, l'État arabe, qui n'a pas été créé jusqu'à maintenant, et pour lequel la plupart des dirigeants israéliens, y compris Netanyahou récemment, se sont prononcés toujours contre ce principe de création d'un État palestinien, alors que, comme l'a dit le président Macron, c'est bien la seule solution pour assurer à long terme la sécurité d'un État israélien s'il veut se maintenir dans cette région-là, dans la paix et dans la sécurité. C'est vraiment le seul moyen pour lui de résister, d'exister, c'est d'accepter à ses côtés la création d'un État palestinien avec sur le territoire palestinien occupé à partir de 1967, c'est-à-dire la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, et avec, dans le cadre d'une négociation de paix, un échange de territoire pour qu'il y ait une continuité entre Gaza et la ville d'Al-Khalil, Hébron en hébreu, jusque pour assurer la viabilité de cet État palestinien dans une continuité territoriale.
Absolument. Pour terminer, M. Ahmad Rami, nous avons parlé bien sûr des crimes d'Israël dans la bande de Gaza, mais revenons, je vous prie, dans le sud du Liban et le Hezbollah, les combattants du Hezbollah qui réagissent en attaquant donc les colonies israéliennes, mais des cibles uniquement des troupes israéliennes et non pas des civils. Alors qu'on vient d'apprendre que 9 ambulanciers avaient trouvé la mort, et nous avons l'impression qu'Israël fait exprès d'attaquer des civils et non pas des combattants Hezbollah, par exemple.
Il faut savoir la réalité, c'est que Israël occupe toujours des parties du territoire libanais. Et le Hezbollah s'est créé, c'est la réponse à l'occupation du Liban. Quand Israël a occupé le Liban, c'est là où le Hezbollah est apparu comme la seule organisation de la résistance libanaise. C'est-à-dire que le Liban, en fait, ne fait que se défendre, alors que l'entité sioniste ne fait qu'agresser, qu'occuper les autres territoires. Donc, dès le début, Israël ne suit que la loi de la jungle, pas la loi du droit international, parce que même maintenant, par exemple, la Hezbollah n'attaque que les objectifs militaires, alors que l'entité sioniste attaque les ambulances, les civils, disons tout le monde. C'est la loi de la jungle. Et Israël, l'occupation sioniste, ne comprend que la loi de la jungle. Et sa force vient de la faiblesse de ses victimes, de la faiblesse militaire de ses victimes. Et que par exemple la République islamique d'Iran ne n'occupe aucun autre territoire, n'occupe aucun autre pays, n'a pas de plan d'occuper d'autres pays, n'a pas d'arme nucléaire, alors qu'Israël a l'arme nucléaire et personne n'en parle. Hein, alors qu'on en parle seulement des plans de l'Iran, alors qu'Israël a déjà l'arme nucléaire, personne n'en parle. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, l'antitichisme n'occupe pas seulement les territoires, ils occupent les médias et les autres gouvernements dans le monde entier, et tous les pays sont aujourd'hui sous l'influence de lobby israélien. C'est Israël en réalité qui dirige les États-Unis, absolument, qui dirige les organisations internationales, et donc c'est la réalité. Hein.
C'est la doctrine Tahiya qui a été mise, explicitée par le général Eisenkot pour l'appliquer dans la banlieue Tahiya de Beyrouth, c'est-à-dire à frapper le plus possible de civils de façon non proportionnelle à l'attaque éventuellement qui a été reçue, ce qui contredit d'ailleurs les conventions de Genève, puisque les ripostes doivent être proportionnées. L'idée est de, en frappant les civils, en faisant beaucoup de morts parmi les civils, beaucoup de dommages, les civils s'opposeront aux éléments armés d'une résistance qui vit dans ces quartiers-là. Donc cette doctrine a été explicitée par ce général qui est maintenant un conseiller stratégique de M. Netanyahou, du Premier ministre israélien, et ceci a été dénoncé d'ailleurs comme une contradiction au droit international de la guerre.
Donc c'est une doctrine choisie et poursuivie par la politique israélienne.
Tout à fait, et qui est meurtrière et qui est condamnable, mais qui est appliquée systématiquement en ce moment à Gaza. Massacrer le plus possible de civils, détruire le plus possible de choses pour que les civils se révoltent, s'opposent à la résistance. Alors qu'on voit qu'à Gaza, en fait, l'esprit de la résistance est dans la population elle-même. Alors, tous, évidemment, ne souhaitent pas avoir des résistances armées, violentes, mais ils savent que la doctrine du Hamas était que la seule résistance qui peut jouer et resensibiliser le monde contre cette injustice ancienne faite aux Palestiniens est de provoquer des réactions armées, des confrontations armées qui réveillent un peu les opinions publiques et les dirigeants du monde. C'est regrettable, mais on peut dire que les Palestiniens de Gaza n'ont pas eu d'autre choix.
Bernard Cornu, analyste politique, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt dans l'émission du débat. Un grand merci à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Merci d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci à vous. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Afrique économique.
Chers auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Afrique Économie en ce 26 novembre 2023 depuis la capitale iranienne Téhéran et depuis Presse TV français. Nous allons réviser ensemble l'actualité économique africaine durant la semaine passée. Restez avec nous. Au Zimbabwe, on veut augmenter la production de blé de 28% à 600 000 tonnes en 2024. Au Zimbabwe, le blé a connu une bonne dynamique de production au cours des deux dernières années. Pour la nouvelle campagne de 2004, les ambitions sont grandes pour la filière qui assure déjà l'autosuffisance du pays dans ce domaine. En 2024, le Zimbabwe espère porter sa production de blé à 600 000 tonnes d'ici 2024 et d'augmenter de 28% sa production. C'est ce qu'a révélé Anxious Masuka, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et du Développement Rural, le 21 mars dernier. Pour atteindre cet objectif, les autorités entendent accompagner les agriculteurs pour augmenter la superficie consacrée à la culture de la céréale d'environ 29 000 hectares supplémentaires à 120 000 hectares supplémentaires. Niger domine en termes de rendettement sur les dividendes déjà annoncés à la BRVM pour 2023. Ce rendement ne manquera pas d'attirer les investisseurs en quête de placement, offrant une meilleure plus-value. La filiale nigérienne du groupe marocain Bank of Africa domine actuellement en termes de rendement des dividendes générés pour les investisseurs de sociétés cotées sur la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Selon des analyses de l'agence Ecofin, cette prééminence est affirmée comparativement à la valeur du dividende net annoncé pour 2023. Sur cette base, BOA Niger a distribué un dividende après impôt de 609,15 francs CFA par action valorisée à 5390 francs CFA en décembre 2023, soit un rendement de dividende net de 11,3% pour ses actionnaires pour cet exercice. La banque kényane Equity Group annonce un bénéfice avant impôt en baisse de 13% en 2023 à 394 millions de dollars. La baisse du bénéfice avant impôt de la banque cotée sur la bourse de Nairobi découle essentiellement de la hausse des provisions pour créances douteuses. La banque kényane Equity Group a annoncé ce mercredi 27 mars 2024 une baisse de 13% de son bénéfice avant impôt en 2023 à 51,9 milliards de shillings. Le premier établissement bancaire d'Afrique de l'Est en termes de revenus a expliqué lors d'une communication financière que cette baisse découle essentiellement de la hausse des provisions pour créances douteuses. Les provisions pour pertes sur prêts ont été en effet augmentées de 139% durant l'année écoulée à 32,8 milliards de shillings, étant donné que les prêts non performants bruts ont presque doublé. La culture de gestion prudente des risques a conduit le conseil d'administration à approuver un dérisquage proactif des performances futures. Pour la première fois, le Togo se dote d'un budget vert de 118 milliards francs CFA. Avec son premier budget vert de l'histoire arrêté à 118 milliards francs CFA, le Togo cible le financement des actions de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique en 2024. Le Togo, pour la première fois, s'est doté d'un budget vert évalué à 118,2 milliards francs CFA pour le compte de l'année 2024, représentant 5,41% du budget national, qui s'équilibre en ressources et en charges à 2179 milliards francs CFA. Ce budget est intégré dans la dotation annuelle de 9 ministères. Avec ses ressources prévisionnelles, le pays va poursuivre la mise en œuvre de sa politique de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Dans le détail, 96 milliards francs CFA seront consacrés à la lutte contre le changement climatique et 22 milliards francs CFA à la protection de l'environnement. Au Congo, Airtel Money et MTN Mobile Money s'unissent pour promouvoir de meilleurs services de paiement numérique. Une grande partie de la population africaine n'est pas bancarisée. Les services d'argent mobile sont comme une alternative pour accélérer l'inclusion financière sur le continent. Au Congo, Airtel Money et MTN Mobile Money ont créé l'Association professionnelle des établissements de paiement. Elle a pour objectif la défense de leurs intérêts et la promotion de meilleurs services de paiement numérique au profit des populations. Les deux parties ont signé les statuts et le règlement intérieur de l'organisme le jeudi 28 mars. L'APEP a pour principale mission de représenter les intérêts collectifs des établissements de paiement auprès du gouvernement, de tenir le public informé des tendances, de mener des projets d'intérêt commun, d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement, de moderniser les systèmes de paiement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de volonté de MTN Mobile Money et Airtel Money de se conformer aux nouvelles directives du ministère de l'Économie et des Finances au Congo. Au Nigeria, le capital minimum des banques commerciales exerçant à l'international passera à 370 millions de dollars d'ici 2 ans. Cette mesure est contenue dans une circulaire de la Banque centrale du Nigeria pour le régulateur. Ainsi, les 25 banques commerciales en activité dans le pays, selon les données à mars 2024, de la Banque centrale porteront leur capital respectivement à 500 milliards de nairas pour les banques commerciales autorisées à exercer à l'échelle internationale, à l'instar d'Access Bank, Zenith Bank, à 200 milliards de nairas pour celles autorisées à exercer au niveau national et 50 milliards de nairas pour les banques commerciales exerçant au niveau régional. Les 6 banques d'affaires en activité dans le pays devront porter leur capital à 50 milliards de nairas.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Thank you. des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.